Nous allons reprendre une nouvelle session et on accueille Julien Choux, qui est professeur à l'Université Paris-Nanterre et directeur adjoint de la Maison des sciences de l'homme, Monde, la MSH Monde. Ses travaux portent sur les écosystèmes médiatiques du 19e siècle au prisme des humanités numériques. Et il est également coordinateur scientifique du consortium Humanum pour le projet Pictoria.
Donc les grands enjeux de ces outils en SHS en particulier. Donc je voulais vous présenter ça autour du consortium Pictoria. Consortium Pictoria qui est une espèce de fédération interdisciplinaire qui réunit des institutions patrimoniales, des laboratoires de recherche en SHS, des acteurs de l'intelligence artificielle, qui a été créé au sein de la grande infrastructure de recherche Humanum pour répondre à un constat, l'idée que les outils d'apprentissage automatique issus des acteurs commerciaux, les GAFAM, les outils comme ChatGPT, Gemini, etc., sont conçus certes pour des données grand public, des images HD en couleur, des scènes contemporaines, et peinent lorsqu'on veut les appliquer sur des corpus patrimoniaux, des estampes anciennes, des photographies de fouilles, des objets archéologiques, des plans, des corpus multispectraux, etc. Et donc le but de ce consortium, c'était de fédérer des acteurs afin de réfléchir collectivement à la manière d'adapter ou de produire nos propres modèles d'IA pour les images patrimoniales, au lieu d'utiliser des outils sur l'étagère, d'élaborer des protocoles, des bonnes pratiques, des jeux de données, des tutoriels, des plateformes d'annotation collaborative adaptées aux données visuelles dans nos disciplines, et puis favoriser l'interconnexion des bases de données, la mutualisation des outils, la mise au commun de ressources, puisqu'on s'était rendu compte, c'était un des enjeux, on s'était rendu compte que tout le monde faisait un petit peu la même chose de son côté, donc il y avait vraiment un besoin de cartographier l'existant, et puis de faire en sorte que les gens puissent réutiliser les données, réutiliser les outils, et qu'on n'ait pas une dizaine d'ingénieurs qui, chacun dans leur coin, refont en fait le même outil. Et donc le consortium a été labellisé par l'IR Étoile Humanum pour 4 ans en 2023. Et donc il vise à devenir une espèce de pôle durable au service de l'IA appliquée aux images en humanité et en patrimoine visuel. Le consortium, il y a différents... je ne vais pas revenir en détail sur son périmètre et sur ses enjeux, on pourra éventuellement en reparler. Je vous mets simplement la gouvernance. Ici en image. Alors pourquoi avoir créé ce consortium ? On a bien vu ces dernières années qu'il y avait des développements de nouvelles méthodes d'analyse de corpus massifs qui étaient fondées sur l'apprentissage machine, que ces développements ont fait des progrès fulgurants, alors même que les entreprises de numérisation du patrimoine s'accéléraient et amélioraient la qualité des données produites et leur interopérabilité. Et ces développements ont permis l'apparition de modèles de réseaux neuronaux dont on a pu voir tout à l'heure des exemples pour le traitement du langage, pour le traitement des images, en histoire de l'art, en histoire culturelle, etc. etc. Mais les chercheurs, les chercheuses en SHS qui souhaitaient utiliser leurs données numériques ne disposaient pas forcément de compétences ni de l'assistance technique nécessaire. Et il y avait beaucoup de projets, comme je le disais, qui ont développé des outils en parallèle, et outils qui sont souvent abandonnés en fin de projet, qui ne peuvent pas être réutilisés par d'autres équipes. C'est aussi un autre des grands enjeux avec ces outils, c'est ceux de la pérennité, étant donné que lorsqu'on est sur de la recherche sur projet, on a très souvent des ingénieurs qui développent des outils qui ne sont plus réutilisables 2 ans, 3 ans après leur développement, parce qu'il n'y a pas de maintenance. Or, la question de la maintenance, je pense, est un enjeu fondamental, et la question d'une réflexion non seulement sur les cycles des données, mais aussi sur les cycles d'utilisation de ces outils et sur la manière dont on les intègre dans des cultures communes au sein des institutions, au sein des équipes de recherche. L'autre grande question, c'était celle de la décorrélation profonde entre les objectifs et les résultats produits par les outils développés par des grandes entreprises et les enjeux et les besoins de la recherche en SHS. Je l'ai dit tout à l'heure, un des grands problèmes, c'est que les résultats, par exemple, dans le domaine de la reconnaissance et de la segmentation d'images, ont été produits et sont évalués par rapport à des objectifs qui sont définis dans des concours et selon des benchmarks qui sont liés à la recherche, je le disais, sur des images contemporaines et surtout dans des objectifs très souvent commerciaux. Alors, on a certes des modèles qui ont été entraînés sur des corpus de milliards de documents, mais la structuration des données, leur hiérarchisation ne répondent pas à nos objectifs et à nos besoins dans le domaine de scientifique. Puisque très souvent, par exemple, annoter une image dans un tel modèle revient à une définition même de ce que c'est qu'une image qui est extrêmement pauvre et extrêmement peu complexe. Donc il s'agit véritablement de proposer des outils et des modèles entraînés spécifiquement pour analyser les archives et les données historiques, sociales, artistiques, qui fonctionnent selon des mécanismes différents, par le réentraînement de modèles et par la création aussi de corpus d'images, de jeux de données et de textes patrimoniaux, et le développement d'outils produits dans une optique non commerciale et de manière véritablement transparente. Alors, on a vu, on voit des tels projets apparaître en France. On a eu beaucoup d'exemples ce matin. Et l'autre grand enjeu, c'est l'enjeu de l'accessibilité de ces outils. On l'a dit, la plupart des laboratoires, en particulier dans certaines sciences humaines, n'ont pas les moyens de financer des ingénieurs spécialisés dans ces questions. Et les besoins techniques permettant d'utiliser ces outils dépassent souvent leurs capacités. Et donc, il y avait aussi l'idée avec ce consortium de mettre en place une véritable culture partagée entre institutions patrimoniales, universitaires et de recherche, puisque la simple mise à disposition des outils, en fait, ne suffit pas à permettre véritablement leur adaptation. Pour permettre au plus grand nombre de comprendre à la fois les enjeux de ces outils et de les utiliser sur leur propre corpus et avec leur propre cadre conceptuel, il faut vraiment développer dans les institutions des groupes dédiés à la valorisation de ces outils et à l'émergence de véritables pratiques collectives. Et on le voit, on l'a vu, ce type de projet se développer ces dernières années à des échelles locales très souvent. On a le Data Lab de la BNF, le HN Lab de Humanum, le Data Lab de l'INA, qui permettent une réflexion en interne sur l'utilisation de ces outils et leur développement. Et véritablement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en réseau ces diverses communautés et de travailler à la mise en place d'une culture partagée entre institutions patrimoniales et laboratoires de recherche. Quelque chose qui a été fait déjà, par exemple, à une échelle internationale. Je vous montre quelques petits projets très rapidement, comme le projet Living with Machines, qui avait été développé par l'équipe de recherche des bibliothèques numériques AIDA pour la Library of Congress. Ou encore le réseau AI for LAM, Artificial Intelligence for Libraries, Archives and Museums, dont la BNF, par exemple, est également partenaire. Alors, je voulais revenir aussi aujourd'hui sur quelque chose d'un peu plus théorique et problématique, puisque les questions que je voulais aborder en particulier aujourd'hui, c'était la question de ce que fait l'IA finalement à la mémoire collective et comment est-ce qu'on peut s'approprier et penser ces outils par rapport à nos propres pratiques en tant que chercheurs, archivistes, conservateurs. Et parce qu'il y a déjà ce sont des problèmes qu'on voit apparaître au sein des métiers et des disciplines, l'idée que les outils d'intelligence artificielle ont pénétré déjà massivement nos existences en à peine quelques années, et on va commencer à s'inquiéter de leurs effets sur la production de formes culturelles, en particulier des effets de l'IA générative, qu'il s'agisse de textes ou d'images, qui est perçu vraiment comme un facteur de déstabilisation des compétences à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et on craint aujourd'hui d'oublier comment écrire ou comment dessiner par nous-mêmes. On voit que des entreprises dans les secteurs créatifs, informatifs ou dans le service client commencent déjà à réduire leurs effectifs au profit d'agents IA. C'est devenu très difficile désormais, lorsqu'on sort d'un master en informatique, etc., de valoriser ses compétences en termes d'IA, parce que les ingénieurs, les informaticiens juniors, on ne va pas forcément les utiliser, parce que finalement, ce qu'ils sont capables de faire, des agents IA peuvent le faire désormais. Et on a de plus en plus de contenu généré avec une supervision humaine minimale. On le voit de plus en plus autour de nous, des publicités, des visuels, des articles, qui nourrissent la peur d'une espèce de synthétisation de la culture dont les formes dominantes seraient produites de manière essentiellement artificielle. Alors, moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est l'idée que, plutôt que d'intelligence, il faudrait parler, pour ces modèles, d'une forme de mémoire collective ou de mémoire artificielle, puisque l'impact de ces modèles, selon moi, se situe beaucoup moins dans la morphogénèse culturelle, dans la création de formes nouvelles, que dans la reconfiguration profonde des mécanismes de sélection, d'encodage, de transmission et de distribution des connaissances sur le passé. Autrement dit, ces modèles sont des outils de transformation de la façon dont nos sociétés se souviennent de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont vu, de ce qu'elles ont produit et de la manière dont elles les valorisent. Donc le véritable enjeu en fait, de ces outils, c'est un enjeu politique. C'est un enjeu qui est de contrôle de la circulation, de l'interprétation et de l'usage de la culture humaine par le biais d'outils qui sont désormais devenus omniprésents dans la gestion du savoir, ces grands modèles d'intelligence artificielle. Et il s'agit de comprendre en particulier le bras de fer entre les logiques public et privé dans la prise en charge de ce patrimoine culturel commun qu'on peut considérer donc comme une forme de capital mémoriel collectif. Donc je reviendrai, j'essaierai de revenir rapidement sur ces questions. Première grande question, là, vraiment, pourquoi est-ce qu'on peut penser ces objets comme des formes de mémoire artificielle ? Lorsqu'on parle de modèles, de grands modèles de langage, où on va parler aussi maintenant de modèles de fondation, des foundation models, qui sont des modèles multimodaux très souvent qui ont été entraînés sur des milliards et des milliards de données. Ce sont donc des modèles qui ont été, comme je disais, entraînés sur d'immenses collections de textes, d'images, de sons qui sont capables de produire des représentations synthétiques de la culture humaine. Comment est-ce que fonctionnent ces modèles ? Comment est-ce qu'ils ont été entraînés ? Je reviendrai très rapidement sur le versant visuel avec un exemple de large vision model, des grands modèles de vision comme ceux qui ont été produits avec dans le projet ImageNet. Ce sont des modèles qui ont été entraînés à partir de milliards d'images et de descriptions visuelles de telle sorte qui vont construire une espèce d'empreinte numérique de la culture visuelle. Et ils sont ensuite capables de générer de nouvelles images, d'analyser des images existantes en s'appuyant sur cette représentation statistique en fait, de leur corpus de données. Et ce sont des modèles qui ont été entraînés depuis des décennies sur des millions, puis désormais des milliards de données. Je reviens voilà, pour vous montrer très rapidement quelques modèles en particulier comme Clip de OpenAI ou DALL-E 2 ou Stable Diffusion qui sont entraînés sur des millions et des millions de paires images-textes issues du web qui va leur permettre, alors pour Stable Diffusion par exemple, on a un corpus de 5 milliards d'images collectées en ligne, ce qui veut dire que en fait, ces modèles ont vu une partie significative de tout ce que l'humanité a produit en termes de culture visuelle. Et elles ont extrait des représentations synthétiques qui condensent cette culture visuelle mondiale. Donc ce qui m'intéresse, ce ne sont pas tant les prouesses génératives de ces modèles que le fait qu'ils fonctionnent comme des mémoires opérationnelles de la culture. Ils encodent des informations sur notre culture visuelle et rendent ces informations actionnables, c'est-à-dire utilisables pour réutiliser des tâches. En ce sens, on pourrait dire que ce sont moins, donc je le disais, des modèles d'intelligence que des mémoires artificielles. Alors, d'ailleurs, la connaissance qu'acquièrent ces modèles ressemble d'une certaine manière à la connaissance, non pas à la connaissance archivistique structurée, mais se rapproche davantage d'une forme de synthèse mémorielle telle que nous pouvons, en tant qu'êtres humains, synthétiser des connaissances autour de données. Durant l'entraînement, un réseau neuronal va ajuster des millions de paramètres internes en réaction aux images qu'il voit, et il va résulter l'activation de sortes de neurones virtuels qui détectent les motifs récurrents. Donc là, par exemple, on a montré qu'un modèle entraîné sur des images d'actualité va développer une forme de neurone Donald Trump, une espèce de configuration interne qui s'active pour tout ce qui ressemble de près ou de loin au président américain. Mais ce neurone Trump ne repose pas sur une détection de visage, il agrège tout un contexte visuel et sémantique, la couleur orange, la casquette MAGA, le drapeau américain, etc. Donc ces modèles en fait, fabriquent des sortes de composites associant une personne et tout un faisceau de signes distinctifs. Et sa mémoire est faite de ce réseau d'associations floues et distribuées. Et c'est ça qui les rend particulièrement puissants. Et on pourrait véritablement parler, à propos de ces modèles, de nouvelles formes de lieux de mémoire. Ces modèles ressemblent un petit peu à de véritables palais de la mémoire modernes. Donc vous vous souvenez de la question de l'art de la mémoire qui est pratiquée depuis l'Antiquité et qui est encore jusqu'à la Renaissance, qui consistait à bâtir mentalement un espace, une maison, un palais imaginaire où l'on entreposait des images marquantes qui servaient de repères pour retenir un discours ou un savoir. Et ce lieu, cet espace mental et les images qu'il contenait permettaient de structurer ou de parcourir les souvenirs. Et de façon analogue, d'une certaine manière, les modèles d'intelligence artificielle construisent un espace latent multidimensionnel où sont stockés d'innombrables motifs visuels appris. Et interroger le modèle avec un prompt, donc une requête en langage naturel, par exemple là ici un chat tigré qui griffe un canapé, ça va revient à se positionner à un certain endroit de cet espace pour en extraire une image correspondante. Et donc le chercheur en IA François Chollet, par exemple, avait proposé la métaphore de la photographie. Lorsqu'on l'envoie une invite ou un prompt à un modèle de ce type, c'est comme si on prenait une photo, en fait, comme si on pointait l'objectif vers une scène de ce vaste espace mémoriel latent et qu'on cherchait à prendre les photos qui nous intéressaient davantage. Donc manipuler ces modèles équivaut à naviguer dans une mémoire culturelle synthétique. Et le prompt va devenir une espèce de boussole pour se repérer dans ces modèles. Donc il y a une première chose que je voulais, sur laquelle je voulais revenir aussi, c'était la question de la transmission et de la distinction entre traces et ce qu'on pourrait appeler véritablement des simili-traces par rapport à l'authenticité des images qui sont générées et qui sont d'une certaine manière produites par ces modèles. C'est un des enjeux, il me semble, central lorsqu'on va tenter d'utiliser ce type de modèle sur la mémoire du passé. C'est la différence entre la manière dont a fonctionné jusqu'à présent la transmission de traces sur le passé et la manière dont ces modèles fonctionnent. Les humains ont toujours façonné leur mémoire collective à partir de traces, des documents, des objets, des images, des monuments qui étaient des témoins matériels du passé, qui étaient conservés et transmis pour servir de différence. Or, les modèles d'IA génèrent désormais des images et des textes qui imitent ces traces et qui brouillent la frontière entre authentique et simulé. Et là, je vous montrais quelques exemples de fausses images générées justement avec ce type d'outils qui vont reproduire en plus les formes même la matérialité d'anciennes photographies ou d'anciennes affiches. Donc, ce sont qui contiennent des informations non seulement sur le contenu graphique, mais aussi sur la matérialité des dispositifs et des traces qui permettent de les transmettre et qui donc par rapport à notre manière de lire une image, vont nous donner l'impression de voir des artefacts alors que ce ne sont ici que des simili-traces produites de manière statistique. Donc cette capacité de l'IA à fabriquer des souvenirs visuels, de faux souvenirs visuels, pose un problème vraiment de mémoire et de responsabilité. D'une part, elle remet en cause notre critère d'authenticité, comment distinguer dans le flot d'images la trace dûment collectée d'un événement réel et la reconstruction factice. Et puis d'autre part, elle nous force à nous interroger sur l'interprétation de ces artefacts. En l'absence de lien à une réalité historique, quelle valeur mémorielle ont ces images générées ? Est-ce qu'elles n'ont pas le risque de réécrire l'histoire ou du moins de semer la confusion par rapport aux repères temporels ? En tout cas, si les modèles d'IA défient cette notion de trace, ils réaffirment à leur manière une idée fondamentale, me semble-t-il, c'est que le présent est essentiellement pétri de passé. Les sociologues rappellent qu'on parle de passé incorporé pour décrire la façon dont l'histoire sédimente dans nos corps, dans nos habitudes, dans nos structures sociales. Or, on peut étendre aussi cette idée aux intelligences artificielles. Une fois entraînées sur des masses de documents anciens, les modèles de fondation incorporent le passé en fait, dans leur poids et dans leurs paramètres. Et rien de ce qu'ils ont ingéré ne disparaît vraiment. Chaque image, chaque texte ayant servi à l'entraînement laisse une forme d'empreinte diffuse dans le modèle qui peut ressurgir à tout moment sous forme d'association ou de biais. Donc les IA aussi, c'est aussi une autre grande enjeu et quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'elles rendent potentiellement actifs des pans entiers de culture qui étaient jusque-là en sommeil. Pensons à toutes les images d'archives qui étaient relativement peu consultées, toutes ces images qui ne sont pas sorties des boîtes depuis qu'elles ont été produites, ou alors une fois, lorsqu'elles ont été numérisées, ces photographies, ces images, ces textes qui ont été oubliés dans des albums, des gravures oubliées dans des cartons, dans des bibliothèques numériques, qui étaient pour une grande part invisibles au grand public, ont été absorbées désormais par tous ces jeux de données et infusent la mémoire des grands modèles d'IA. Et ce phénomène fait émerger ce qu'on pourrait appeler des formes d'images fantômes. On a des représentations du passé qui, jusqu'à présent, n'ont pas été canonisées, n'ont pas été revues, n'ont pas fait partie du canon d'objets, de textes qu'on transmettait et qui, parce que désormais ils ont été réintroduits dans les grands modèles au moment de leur entraînement, vont influencer ces outils et vont influencer d'une certaine manière nos imaginaires et nos mémoires collectives sans que nous en ayons véritablement conscience. Car finalement, nous ignorons même que ces documents existent. Je vais passer un petit peu là-dessus parce que ce sera encore un petit peu trop compliqué. La grande question par rapport à ces outils, une des questions qui était posée en particulier par André Le Croix-Gourand, c'était la question de l'orientation. La question de l'orientation dans les savoirs, qui était un problème qui était posé face à l'accumulation exponentielle des connaissances depuis déjà les Lumières, déjà au XVIIIe siècle. On se posait la question de savoir comment embrasser la totalité du savoir disponible. Et Laurent Gourand a souligné que l'invention de l'imprimerie a rapidement entraîné la nécessité de systèmes pour se repérer dans la masse du livre. La mémoire sociale engloutie dans les livres en quelques décennies, toute l'Antiquité, l'histoire des grands peuples, la géographie, l'ethnographie d'un monde devenu définitivement sphérique, la philosophie, le droit, les sciences, les arts, les techniques et une littérature traduite dans 20 langues différentes. Ça, c'est ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. D'une certaine manière, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui à nouveau avec ces grands modèles d'intelligence artificielle, avec un nouveau saut qualitatif et quantitatif, parce que jamais le savoir humain n'a été à ce point agrégé et rendu manipulable automatiquement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces modèles d'IA sont en quelque sorte des boussoles ou des cartographies de l'âge du numérique. Et là où les mémoires individuelles et collectives s'appuyaient sur des références externes, des livres, des bases de données, et sur le labeur d'experts pour organiser l'information, on délègue désormais largement ce travail à des agents artificiels. Alors, et ces agents, justement, qui vont devenir, qui vont avoir une certaine agentivité, comme leur nom le désigne bien, ils vont plus loin que les simples bases de données qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, puisque les dispositifs algorithmiques modernes agissent par eux-mêmes sur la mémoire collective, au point vraiment qu'on peut les voir comme des formes d'agents cognitifs à part entière au sein de l'écosystème des savoirs. Hier, simple répertoire passif, les systèmes de mémoire deviennent actifs. Ils vont contribuer de plus en plus à travers les algorithmes, à travers leur intégration dans des écosystèmes médiatiques, à sélectionner, trier, associer et rendre disponible l'information de manière dynamique. Donc on a une forme d'automatisation de l'orientation dans le savoir, accompagné d'une forme de synthèse sans précédent, de capacité à cartographier des masses de connaissances de manière très rapide en plus. Ce qui pose, alors je le disais tout à l'heure, des questions à la fois sociales, politiques et démocratiques, hein, sur l'utilisation de ces outils, la manière dont ils sont intégrés de manière plus ou moins consciente dans nos pratiques collectives. Puisqu'il faut le dire, hein, jusqu'à présent, la gestion de la mémoire collective était confiée à des institutions publiques ou à but non lucratif, des bibliothèques, des musées, des universités et à des professionnels garants d'une certaine éthique, des conservateurs, des historiens, des documentalistes. Or, l'irruption de ces modèles d'IA modifie cet équilibre en confiant une partie de ses fonctions à des entités industrielles et automatisées. Et on passe donc d'un modèle décentralisé et humain, avec des milliers d'acteurs qui contribuent au savoir, avec des modes de validation diversifiés, à un modèle en apparence unifié et très efficace, mais aussi potentiellement monolithique et opaque, avec quelques algorithmes qui concentrent l'accès à l'information. C'est un point sur lequel je voudrais aussi revenir rapidement. C'est avec l'idée qu'avec ces outils d'IA, nous ne déléguons pas simplement la mémoire, mais nous déléguons aussi une part du traitement de l'information à ces outils, avec le risque en particulier de captation de nos données. Puisque au-delà des questions de transmission et d'orientation, l'essor de ces modèles d'IA pose un enjeu, je le disais, à la fois politique et macroéconomique, celui de la captation du capital de connaissances par certains acteurs et du risque même de privatisation des communs culturels. On peut parler à ce sujet d'une forme de véritable extractivisme numérique. Les données culturelles qui ont été produites sur le long terme par nos sociétés sont désormais extraites en masse pour alimenter des intelligences artificielles propriétaires. Donc pour prendre un exemple concret, depuis près de 30 ans, la BNF s'est engagée dans la numérisation et la diffusion du patrimoine qu'elle conserve, en proposant à la fois une bibliothèque numérique, Gallica, où on a accès désormais à plus de 10 millions de documents, et surtout, elle met à disposition des chercheurs et des développeurs des API, des interfaces de programmation qui permettent d'exploiter automatiquement ces gisements de données et de métadonnées librement et gratuitement, dans une logique vraiment de science ouverte et de commun de la connaissance qui vise à rendre le savoir accessible et réutilisable par tous. Or, le problème, c'est que un fait récent qui a été signalé, par exemple, dans un article du Monde encore tout récemment, c'est que depuis 2023, les équipes techniques de la BnF, par exemple, se sont rendues compte qu'il y avait des campagnes d'aspiration massive des données de Gallica et de la BnF via justement ces mêmes API menées par des entités identifiables comme étant aux États-Unis, hein, puisqu'on reconnaissait des adresses IP de Californie. En clair, des entreprises entraînaient des IA gourmandes en données en siphonnant systématiquement les données de la bibliothèque, avec des volumes de requêtes qui étaient tels qu'ils menaçaient la stabilité des serveurs de la BnF, qui a dû d'urgence mettre en place des limites d'usage pour juguler le phénomène. Et on a un résumé, je cite ce que dit le directeur général de la BnF, Philippe Launay, dans cet article. Il y a un resserrement des moyens que l'État nous donne, les coûts de maintenance d'une infrastructure technologique assez massive et des acteurs de l'IA qui ne sont pas totalement transparents sur leur usage, qui font du chiffre d'affaires à partir de nos données. Dans la chaîne de valeur, la puissance publique se fait un peu avoir. Donc il s'inquiète de voir des acteurs privés commercialiser des données patrimoniales publiques, alors même que les budgets de l'État pour maintenir et entretenir cette infrastructure se resserrent. Et donc, désormais, on est rentré quand même dans des logiques de discussion avec certaines entreprises pour obtenir des rémunérations justes de l'usage industriel de ces données. Et c'est quelque chose qu'on voit partout, hein, aux Pays-Bas, Wikipédia même, hein, qui est aussi un modèle de commun numérique, qui subit la pression des crawlers, c'est-à-dire ces afflux de bots qui siphonnent des données liées à l'entraînement de modèles, qui a fait exploser les coûts de bandes passantes, puisque c'est bien le problème, c'est que ce ne sont pas simplement des données qui sont mises à disposition, ça coûte de l'argent en termes de bandes passantes, en termes de serveurs, qui force la Wikimedia Foundation à repenser ses politiques d'accès pour les acteurs commerciaux. Et donc ces exemples illustrent d'une certaine manière un phénomène plus large que la politologue Elinor Ostrom et ses collègues avaient déjà théorisé, celle de deuxième clôture des communs, la second enclosure movement, l'idée que après les enclosures des terres communales du 18e au 19e siècle, nous assistons aujourd'hui à une forme d'enclosure des communs informationnels avec des ressources naguère libres et non appropriées, des textes, des images, des données du domaine public, des savoirs partagés qui sont capturés par de nouveaux propriétaires. Par de nouveaux dispositifs juridiques et techniques, avec des grands modèles d'IA qui absorbent une quantité de contenu disponible, souvent sous licence ouverte ou appartenant au domaine public, et qui les convertissent en actifs privatifs, protégés par le secret industriel et exploités commercialement, avec une forme véritablement d'ubérisation de la mémoire. De la même manière qu'Uber avait utilisé les infrastructures publiques, les routes, les programmes de recherche sur la navigation, etc., et tout le travail d'indépendants pour les concentrer et concentrer la valeur créée, les entreprises d'IA utilisent le patrimoine commun et les traces produites par la multitude d'acteurs du patrimoine depuis des décennies et des décennies pour constituer des actifs informationnels qu'elle va ensuite monétiser. Donc voilà, il y a un problème de ce qu'on appelle le problème du passager clandestin, donc des entreprises qui profitent d'infrastructures et de données qu'elles n'ont ni financées, ni produites, sans contribuer en retour à leur maintenance ou à leur enrichissement, qui est une rupture avec l'esprit des communs tel qu'elle est définie par exemple par Ostrom. Et il y a un autre point sur lequel il faut revenir, c'est que le trésor de ces données, ce ne sont pas seulement les données elles-mêmes, c'est aussi, donc ce ne sont pas seulement les données culturelles brutes, c'est aussi tout le patrimoine immatériel d'interaction, de savoir-faire, de contexte d'usage autour de ces données qui sont aussi mis à disposition, les réactions aux images, les légendes, les commentaires, tout le contexte social qui fait aussi l'objet d'une forme d'appropriation ou de captation. Alors, quel avenir pour conclure pour la mémoire collective à l'ère de l'IA ? je reviendrai simplement sur quelques questions qu'il faudrait se poser dans toute leur complexité pour penser l'utilisation de ces outils d'IA au sein de nos institutions, de nos laboratoires. Il y a trois grands défis majeurs. Premier, c'est qui contrôle ces nouveaux lieux de mémoire numérique. En ce moment, la mémoire collective médiée par l'IA est en grande partie façonnée par des entreprises privées dont l'objectif principal est commercial. Donc le risque, c'est que des préoccupations commerciales priment sur les impératifs comme l'exactitude historique, la diversité culturelle, la responsabilité sociale. Donc il y a un enjeu de souveraineté culturelle. Deuxième question, c'est la question de la transparence et de la responsabilité de l'histoire recomposée par l'IA. Je l'ai dit, ce sont des modèles qui sont actuels, qui sont largement opaques. On ignore très souvent quelles sont les données précises qui ont servi à leur entraînement, quels mécanismes internes ils utilisent. Cette opacité qui complique l'audit de leur production. Et donc, si un chatbot d'histoire, par exemple, qui serait mis en place dans un musée, se met à véhiculer des formes de biais, etc., comment est-ce qu'on fait pour détecter et corriger le problème? Quelles sont les règles de traçabilité des données, par exemple? Quels sont les comités d'éthique qu'il faudrait mettre en place pour superviser ces réponses? Et puis, dernier point, c'est les conséquences de la mémoire algorithmique. Est-ce qu'elle tend vers une forme d'uniformisation culturelle également, puisque ces modèles d'IA, qui sont essentiellement, on l'a dit, des modèles statistiques, pourraient à terme produire une forme de mémoire standardisée qui va lisser les divergences, lisser les aspérités, une sorte de récit officiel implicite qui émergerait des formes de données majoritaires, une forme de mémoire Wikipédia qui est globalement fiable sur les faits basiques, mais qui est appauvrie dès qu'on sort de la norme, parce que les données d'entraînement sur lesquelles ces modèles ont été entraînés ne sont pas suffisantes justement pour les données à la marge. Et c'est précisément à ces lieux-là que se produisent ce qu'on appelle des formes d'hallucination. Alors je dirais que malgré ces interrogations, il faut adopter une vision plutôt non pessimiste, non pas passéiste. Si on a produit aussi et si on a proposé ce consortium, c'est parce qu'il nous semblait qu'il y avait quand même des enjeux majeurs et des potentialités majeures vraiment avec ces outils. Ils rendent possible des types de production et d'exploration qui étaient tout à fait impossibles auparavant. Alors je ne vais pas revenir sur les différents exemples. On pourra revenir éventuellement, si vous voulez, pendant les questions, sur quelques partenaires du projet, du consortium Pictoria, qui ont utilisé des outils d'intelligence artificielle pour faire des tâches qui étaient extrêmement complexes, longues, lourdes. Mais on a déjà eu beaucoup d'exemples ce matin. Donc je conclurai simplement en disant que voilà, les modèles de fondation sont en passe de devenir des carrefours obligés de la mémoire contemporaine. Selon la métaphore des lieux de mémoire de Pierre Nora, elle me semble encore pertinente aujourd'hui. Hein, ce sont de nouveaux sites où se cristallisent nos références communes, mais plus que des simples lieux, hein, ce sont des dispositifs actifs, des plateformes mémorielles. Et la question centrale qui va se poser à nous va être celle de pilotage de ces dispositifs. Est-ce que ce sont les instruments d'une meilleure diffusion du savoir, d'une mémoire partagée et critique, ou au contraire, les vecteurs d'une forme d'amnésie programmée au profit d'intérêts privés? Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation aussi riche que foisonnante qui soulève énormément de questions. On a peu de temps, mais voilà, si vous avez des réactions, des réflexions, des questions.
Oui, bonjour. Geoffroy Rigoulot, Skinsoft. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des intérêts, on va dire, privés, c'est-à-dire une entreprise autre que moi, peut-être. Ah, enchanté. Je suis très content que vous soyez là. Vous allez pouvoir me soutenir, probablement. Aujourd'hui, on assiste à quoi ? Un outil fantastique qui est un outil d'intelligence artificielle qui arrive sur un marché. Effectivement, et on va parler marché, parce que je pense que c'est essentiel. Cet outil, il est exploité par effectivement des grandes structures qui n'ont pas forcément de moralité, qui s'intéressent au grand public et qui s'y intéressent sans éthique, peut-être. Effectivement. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, et je pense que les chercheurs pourront le confirmer, c'est un outil qui peut être chargé d'éthique. Voilà. Ce qui me choque beaucoup dans votre présentation et dans votre consortium, c'est que l'entreprise est déconsidérée, alors que c'est elle qui va régler votre problème. Et c'est des entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises innovantes avec une éthique, qui régleront ce problème sur un secteur qui est celui, effectivement, de la qualité de la donnée, du respect de la donnée, du respect de l'histoire et de l'éthique. Je pense, moi, je suis à peu près persuadé que c'est seule l'entreprise qui pourra garantir ça. Donc, il ne faut pas l'opposer. Que votre consortium soit quelque chose qui réfléchisse aujourd'hui, c'est très bien, mais qu'il décide dès le départ de dire l'entreprise, elle a une vocation commerciale, elle est hors sujet, non, ce n'est pas possible. Il faut revenir à des bases qui sont logiques, de réflexion logique d'un marché, et d'un marché qui fonctionne parce que l'entreprise existe, parce que le public existe, parce que les musées existent, et parce qu'on a aussi à défendre une forme d'histoire collective. Vous n'êtes pas, vous, chercheurs, on va dire, formés dans nos belles écoles françaises, vous n'êtes pas les seuls détenteurs de cette vocation qui est de dire on préserve notre histoire, on préserve notre vérité historique. Il y a aussi des gens dans l'entreprise qui savent faire ça.
Alors, je vais répondre tout de suite parce que je pense que ça n'a pas été du tout clair ce que j'ai dit. C'est pas du tout quelque chose contre entreprise. Au contraire, et là, je n'ai pas eu le temps de le dire, nous avons des entreprises qui sont des partenaires du consortium. Donc, en fait, on a, et là, je parlais plutôt de des méga-entreprises. Parce que ce n'est pas la même chose lorsqu'on a une PME ou lorsqu'on a une entreprise qui, effectivement, va avoir une charte éthique et lorsqu'on a des très, très grandes entreprises qui ont des capacités de économiques, on va dire, qui sont à niveau ou même au-delà des États. Et au contraire, je voudrais revenir là-dessus, on est très conscient qu'on ne peut pas développer des outils indépendamment des entreprises. Et donc, la première chose qu'on a fait avec le consortium, c'est trouver une entreprise, en l'occurrence Teclia, donc qui est une entreprise française qui travaille avec pour la mise en place de plateformes et d'outils de traitement IA, qui est très souvent partenaire de projets ANR, qui a des partenariats avec la BNF, avec le musée Guimet ou autre. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est en fait utiliser une très grosse partie du financement du consortium pour payer des développements internes dans cette entreprise et dans d'autres entreprises et dans d'autres domaines. Donc le but, c'était véritablement aussi d'être dans un dialogue avec là où la recherche se fait, le développement se fait en particulier en termes d'informatique, être dans un dialogue aussi pour éventuellement mettre en place des tests chiffres, donc des tests cofinancés avec des missions dans les entreprises aussi. Donc voilà, si j'ai pu laisser croire qu'on était anti-entreprise et dans le consortium, au contraire, on veut que ce soit un dialogue commun, aussi bien au niveau des chercheurs, des entrepreneurs, des institutions patrimoniales, et que les questions que je soulevais, il me semblait qu'il fallait les soulever d'un point de vue global. Mais il me semble qu'on n'est pas dans la même configuration lorsqu'on est en dialogue avec une entreprise justement avec laquelle on peut dialoguer, et lorsqu'on est dans une hiérarchie où les aspects économiques sont, il y a un tel décalage que on n'est plus en position de force du tout pour être dans un dialogue.
Oui, je vous remercie de cette précision qui pour moi est très importante évidemment. Après, effectivement, votre groupement pourra à un moment donné aussi s'attacher à s'ouvrir sur des technos qui sont différentes, sur des approches qui sont différentes, parce que moi, je reviens à ça. Ces journées, elles sont très importantes parce qu'elles permettent justement de faire en sorte que les gens se retrouvent dans un même lieu avec des chercheurs qui cherchent sur un sujet particulier, souvent assez particulier. Vous qui avez une problématique à gérer et des entreprises qui souvent vont, si vous voulez, avoir une démarche marketing, mais qui peut être positive. Et cette démarche marketing, elle donne du sens, elle donne du lien. Elle permet d'emmener les projets au bout, sans forcément que vous financiez vous, parce que l'entreprise, elle peut le financer. Aujourd'hui, nous avons des capacités de financement pour aller dans le sens, effectivement, d'une éthique sur un marché qui est celui, effectivement, et je dis volontairement marché, qui est celui de la culture, de la préservation de notre culture européenne, française. Et ce lien-là, il faut le créer, il faut l'amener. Merci.
Merci à vous. On rappelle d'ailleurs que les appels à projets sont construits dans le cadre d'ICAR sur une coopération, une intégration entre les équipes de recherche et les mises en application dans le domaine des ICC. Donc, c'est un point important.
Merci. Merci pour la présentation foisonnante qui me faisait venir deux idées comme ça à chaud. La première, j'ai quand même un peu l'impression que vous peut-être... Peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être que vous surestimez l'importance des données publiques patrimoniales dans l'entraînement des grands modèles. Aujourd'hui, un grand modèle, c'est entraîné sur 50 trillions de tokens, 50 trillions de mots. Alors, pour se donner un ordre de grandeur, c'est plus, à peu près plus de 250 millions de fois le contenu intégral de l'Iliade et l'Odyssée. Je pense que si on prend toutes les données patrimoniales de la Terre, on n'arrive même pas à 0,1% de ce contenu-là. Donc là-dessus, je ne suis pas sûr que vraiment... En fait, ils aspirent tout. En fait, c'est pas ciblé en se disant on va aller piller les communs numériques qui ont été mis en place depuis des décennies par l'argent public. Non, c'est qu'ils aspirent tout. D'ailleurs, ils le disent, depuis un an, ils sont arrivés au fond. Il n'y a plus de texte nouveau disponible en ligne. Ils ont entraîné sur toutes les données qu'il y avait sur Internet. Donc ça, c'est la première idée. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une optique de pillage volontaire là-dedans. Et la deuxième, qui est peut-être plus importante à mon avis, c'est sur cette idée de mémoire sur laquelle je vous trouve très optimiste. Parce que quand on dit mémoire, on a l'impression de quelque chose on a l'impression d'une vue qui est assez objective, on va dire, ou en tout cas qui est d'un objet qui serait presque mécanique, quelque chose de physique, avec l'image que vous aviez montrée et qui était tirée de la présentation de Chollet, je crois. Ou non, ou c'est vous qui l'avez fait ?
Oui, je l'avais généré.
Vous l'avez généré, mais il avait fait des représentations un peu similaires. Donc, qui est presque physique, en fait. On a l'impression de prendre une photographie. Or, quand même, ces modèles, ils sont... D'abord, c'est des modèles stochastiques. C'est des modèles qui ont une part d'aléa. Et ils ont la capacité à faire des recombinaisons qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et qui peuvent permettre de créer, on va dire, un contenu qui n'existait pas, les fameuses hallucinations, en recombinant des objets ou en recombinant des concepts qui ont été dans l'ensemble d'entraînement. Et ça, quelque part, en termes de mémoire, moi, je trouve que c'est très dangereux, parce que ça veut dire qu'on peut avoir l'illusion de quelque chose qui est correct en termes de sauvegarde, alors qu'en fait, c'est des parties qui ont été sauvegardées et dont les liens entre elles ne sont pas forcément sauvegardés, eux. Hein, et on pourrait très bien s'imaginer avoir, je ne sais pas, des vikings avec des montres, hein, ou des choses comme ça. D'ailleurs, ça arrive très souvent quand on génère des images. On peut faire des recombinaisons d'objets qui n'ont absolument aucun sens là-dessus, comme les images que vous montriez, qui n'ont pas beaucoup de sens d'un point de vue photo, quoi. Et donc, cet aspect de mémoire, de se dire, ah, il y avait un article du New York Times, hein, qui disait Blurry JPEG, il y a 3-4 ans, quand ChatGPT est sorti, c'est un JPEG un peu flou du monde. Moi, je les trouve très dangereux parce que je ne suis pas sûr que ça mette la précaution qu'il y a à douter de la véracité de ce qu'on sort d'un modèle qui peut faire des recombinaisons aléatoires par rapport à l'ensemble varié de ce qu'il y a dedans, quoi.
Alors, j'ai une fois de plus pas dû être très clair, puisque c'était précisément ce que je voulais dire. C'était opposer la mémoire traditionnelle faite sur des traces stables transmises dans le temps avec cette nouvelle forme de mémoire qui donne l'impression, c'est pour ça que je parlais de simili-traces, qui donne l'impression d'avoir des traces en face de soi et qui, en réalité, joue. C'est l'effet de l'impression. Joue sur notre capacité à comprendre les images pour nous faire croire qu'on a une image, mais ce ne sont pas des images. Pour moi, ce ne sont pas en fait des images, ce qu'on voit. Oui, ah oui, non, mais bien sûr, oui, on est dans la même situation. Donc la question, ça va être de pouvoir avoir des outils pour penser ce que sont ontologiquement ces objets qui ne sont pas des réutilisations, c'est pas quelque chose qu'on va chercher, qui a été conservé de manière stable dans une mémoire physique ou dans même une mémoire d'ordinateur. C'est quelque chose qui est régénéré. Et ça, il me semble, c'est pour ça que je suis pas passé dessus, mais j'avais toute une petite diapo sur la question de repenser ça en termes de générata. C'est-à-dire, avant, on avait des data, on avait une empreinte et on avait des données. Là, désormais, on a ce que j'appelais des engrammata, donc c'est-à-dire une manière de engrammatiser la connaissance et de la représenter de manière synthétique, qui va produire des objets qui vont être des générata, qui seront quelque chose qui n'a jamais existé. Et il faut qu'on puisse le penser et l'opposer justement aux data. Et sur l'autre question, oui, bah, je suis tout à fait d'accord hein, sur le fait que... pour moi, ce n'était pas le fait qu'il y ait beaucoup de données patrimoniales dans les grands modèles, parce qu'effectivement, Facebook, Google ou autres, ils ont suffisamment de manières de produire des milliards et des milliards de données quotidiennement pour eux, ça représente finalement quelque chose qui n'est pas vraiment un très grand enjeu, je pense, ces données-là. Ils sont quand même allés les chercher parce qu'il les fallait. Pour moi, l'enjeu, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est par rapport à nous, quand on voit que ça fait tomber des serveurs, des institutions, parce qu'en fait, ils ont été dimensionnés pour répondre à 5 requêtes à la fois, et que là, quand on a des bots qui viennent crawler de manière massive, ça fait tomber les serveurs, ça fait tomber Gallica, ça fait tomber les requêtes en API que nous, on voulait faire derrière en tant que chercheurs. Donc, c'est moins... ce que ça fait par rapport à eux que ce que nous, ça nous oblige à penser en termes d'institutions et de chercheurs qui nous empêchent en fait, de faire notre travail.
Merci pour votre présentation. Une petite question courte, j'espère. Si on part du principe que finalement, les données iconographiques ou autres, les archives en général vont servir de base d'entraînement à ces outils gargantuesques, qui vont permettre d'entraîner ces IA, de générer de nouvelles données, évidemment, aussi. Est-ce que ça veut dire que, finalement, ces données, ces archives, il va falloir les indexer, les annoter, les documenter différemment ? Il va falloir revoir des choses là-dessus pour tenir compte de tous ces aspects-là. Est-ce que ça change quelque chose dans la pratique de la documentation, de l'archivage ?
Je pense qu'il va y avoir des nouvelles pratiques qui vont émerger. Alors, on a vu, il y a un nouveau protocole qui s'appelle le MCP. Là, c'est Model Context Protocol qui permet de décrire, par exemple, la structure d'une API et du coup, de donner en fait cette description à un grand modèle comme Claude ou ChatGPT ou autre, pour qu'il puisse accéder directement aux données. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va avoir des formes d'interfaçage avec les API et avec les données existantes. Donc, je ne suis pas certain qu'on ait besoin de repenser la manière de les données existantes, mais on peut penser la manière d'interfacer avec ces modèles futurs pour que ce soit utilisé, pour que ce ne soit pas oublié. Je ne sais pas si MCP, c'était à la mode encore il y a quelques mois, j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu en train de se terminer. En tout cas, on voit aussi que dans les institutions patrimoniales, il y a une grosse réflexion en ce moment sur des projets parfois qui datent d'il y a 10 ans ou 15 ans pour restructurer leurs jeux de données qui arrivent à terme aujourd'hui à un moment où on se dit est-ce que ça valait la peine de faire tout ça parce que avec les outils d'IA aujourd'hui, c'est peut-être déjà obsolète. On va voir. Je suis plutôt optimiste sur la manière dont ça va entrer dans les protocoles de travail quotidien. Et finalement, ce qui semble aujourd'hui quelque chose de très complexe, qui semble écraser les métiers, les chercheurs, les disciplines, et on se dit on ne va plus pouvoir travailler comme on le faisait avant, ça va infuser très tranquillement, comme l'ordinateur a infusé, comme l'informatique, comme le numérique ont infusé dans les pratiques, et on pratiquera ça de manière relativement... sans se poser trop de questions.